Ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voici qu'un docteur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Et lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba aux mains des brigands. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre, par hasard, descendait par cette route. En le voyant, il fit un détour et il passa. De même, un lévite, arrivé en cet endroit, en le voyant, il fit un détour et il passa. Mais un Samaritain en voyage arriva près de lui, et en le voyant, il eut pitié de lui. Il s'approcha, il lui banda les blessures, y versant de l'huile et du vin, puis le hissant sur sa propre monture, il le conduisit dans une auberge, et il prit soin de lui. Le lendemain, prenant 2 deniers, il les donna à l'aubergiste, et il dit, « Prends soin de lui, tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? L'autre répondit, c'est celui qui lui a fait miséricorde. Jésus, et toi aussi, fais de même. Asseyez-vous quelques instants. Amis, vous revoir avec beaucoup de joie, après ces quelques semaines de JMJ et autres repos alpins. Voilà, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour cette chapelle, en espérant que le Seigneur nous accorde une année, eh bien, pleine de bonnes choses. Voilà. Je voulais simplement vous parler du petit pèlerinage du samedi 17 septembre des pères de famille. Voilà. Intéressés par ce pèlerinage trouveront au fond. Et si d'aventure il en manquait, parce que je pense que vous allez vous ruer dessus, eh bien, n'hésitez pas à demander des renseignements à Jean-François Berthoud, notamment. Voilà. Père du Fils et du Saint-Esprit. La lettre tue et l'esprit vivifie. Cette fameuse formule, vous le savez, elle est comme la clé de toute notre belle religion chrétienne. La lettre tue, l'esprit vivifie. Mais on sait combien il y a eu de fausses interprétations de cette formule, notamment ces dernières décennies. Un espèce de pseudo-spiritualisme qui voulait faire feu de toute règle, de tout conformisme, vous savez bien, et qui entendait réduire le christianisme à une sorte de vie bohème menée au gré d'un esprit, lequel on sait trop, et d'un simple sentiment. Voilà, je veux faire le bien, j'ai une démarche authentique, et ça prime plus que tout commandement ou que toute loi. Alors on sait très bien, évidemment, que cette acception de la lettre et de l'esprit mène au chaos. En réalité, derrière une espèce de douceur qui se substituerait à la dureté de la loi des temps jadis, on n'arrive à rien, tout simplement. Je crois qu'on a, dans cette fausse conception de la liberté, on a à la fois une méconnaissance totale du mode de fonctionnement de l'être humain. L'être humain a besoin de règles, il a besoin de l'être, il a besoin de savoir où aller. Et puis je crois qu'il y a également un souverain mépris de la volonté même de Dieu. Parce que si la lettre existe, je parle des saintes lettres, si la lettre existe, si Dieu s'est donné la peine de d'énumérer des lois aux patriarches, aux prophètes, et jusque par la bouche de son fils, c'est parce qu'il est dans sa grande sagesse, il pensait, et a raison, que nous avions absolument besoin de lois. Jésus nous dit lui-même, du reste. Il nous dit, par un iota, par un menu trait de la loi ne passera, que tout ne soit accompli. Celui qui violera le moindre de ses commandements sera tenu pour le plus petit dans le royaume. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Vous voyez que l'enjeu de toute vie chrétienne, c'est, je crois, de trouver une juste mesure entre l'application, entre la loi, entre la lettre dont nous avons besoin, que Dieu nous a donnée pour que nous puissions nous sanctifier, et l'esprit, évidemment, une certaine souplesse, une certaine spontanéité qui est le propre du christianisme et qui le distingue de, à la fois du judaïsme et de l'islam, mais également de notre société moderne, fracassière et juridicisée à outrance. Vous voyez. crois que le vrai problème, il est là. Comment recevoir la loi, quelle conception se faire de la loi, et comment la mettre en pratique, parce que c'est par cette loi qu'on va au ciel. Cette question, elle est récurrente dans l'Évangile. Pensez au jeune homme riche, qui pose cette question en toute bonne foi à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle » Sous-entendu, sous quelles règles dois-je vivre pour pouvoir arriver au ciel? C'est la question que pose le légiste, alors sur un mode beaucoup moins sympathique. Hein, on dit qu'il le fait pour mettre à l'épreuve le Christ. Il demande au Christ quand même, il pose cette question tout à fait légitime. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et la question que nous devons poser au Seigneur aujourd'hui, « Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ?» Quel comportement dois-je avoir vis-à-vis de la loi? J'ai des textes, comment je dois me comporter? Aujourd'hui, le Seigneur enseigne ce légiste avec une bonhomie, une bonté. Vous voyez, il ne relève même pas la méchanceté de cet homme-là, et il ne pinaille pas sur ses intentions mauvaises, il va droit au but, il lui répond. Et il ne lui répond pas en lui faisant un cours magistral sur ce qu'est la loi, c'est pas un juriste, notre Seigneur. Il répond de façon très pratique, par un cas concret. Il répond avec la parabole du bon samaritain. Quel est le cœur de cette parabole du bon samaritain? Il y a ce grand principe qui est déjà le grand principe de l'ancienne loi, aimer Dieu plus que tout, aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est le grand principe. Jésus sait que les légistes de l'ancienne alliance ont fait une interprétation au fil des siècles qui était de plus en plus restrictive quant au terme de prochain. Vous savez que les juifs considèrent comme prochain uniquement leur co-religionnaire, et encore, on ne doit pas porter secours à son co-religionnaire, on ne doit pas entretenir de contact avec d'autres juifs lorsque ceux-ci font l'objet d'impuretés légales. Lorsqu'il y a effusion de sang, c'est notamment le sang qui leur pose problème. Lorsqu'il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas observées, bien nous n'avons aucun contact à avoir, même avec nos frères de sang, avec nos frères religieux. Vous voyez qu'on a vraiment une étroitesse dans la conception du prochain. Mais cette étroitesse, elle n'est pas totalement le fait mauvais des légistes. Vous voyez bien qu'il y a un abus, certes, mais elle était déjà voulue par Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu a voulu que dans un premier temps, le peuple élu ait du prochain une conception restrictive. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre à l'écart de tous les autres peuples païens un petit peuple, un petit reste. Et il s'agissait pour Dieu de faire comprendre au peuple élu qu'il n'avait aucun lien à entretenir avec l'erreur, aucun lien à entretenir avec tout ce qui était autour et qui était impur, polythéiste, païen, etc. Dieu a donc voulu lui-même que la réception du terme de prochain soit restreinte. Je ne sais pas ce qui me fait comprendre. Par-dessus cette restriction voulue par Dieu, dans un premier temps du moins, il y a eu ces abus des légistes qui en ont encore surajouté et qui étaient totalement sectaires, puisque les pharisiens refusaient d'entrer en relation avec les samaritains, les publicains, enfin, entre eux même avec les sadducéens, il était hors de question d'avoir des contacts. Bref, on tombait dans une espèce de réception totalement erronée, parce que trop étriquée, du terme de prochain. Que fait Jésus? Il vient restaurer le terme de prochain dans la vision de Dieu. Il vient expliquer à ce légiste, mon bon ami, au commencement, il n'en était pas ainsi. Je sais ce que tu penses, je sais ce que pensent tous mes congénères juifs. Je sais que nous avons du terme de prochain une acception restrictive. Mais dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans mon plan, il n'y a pas du tout cette restriction. Aujourd'hui, le temps est venu pour vous les juifs d'entrer en contact avec tout le monde. Donc désormais, vous entendrez comme prochain la personne qui se présentera devant vous et qui aura besoin de vous. Et Jésus va donner tout son sens, en fait, à la loi. Il restaure la loi dans son sens primitif. Et il va encore plus loin, parce que lorsqu'on voit la fin de la parabole, que dit Jésus? Qui est celui qui s'est rendu le prochain de l'autre? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'occuper de son prochain, le prochain étant le tout venant, c'est déjà énorme, c'est révolutionnaire dans la bouche de Jésus, c'est à toi, juif, de te rendre le prochain de l'autre. C'est-à-dire d'avoir cette mansuétude, cette délicatesse de faire en sorte, quand tu rends service à quelqu'un, que ce soit toi le débiteur. C'est ce que Saint Vincent de Paul, c'est toute la logique chrétienne, c'est toute la logique des saints. Saint Vincent de Paul disait aux filles de la charité, quand vous faites l'aumône, faites-la de telle sorte qu'on vous tienne pour le débiteur du mendiant. Et que le mendiant sache qu'il a auprès de vous un crédit incommensurable. Vous voyez, Jésus vient, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que Jésus vient interpréter la loi, lui donner tout son sens, c'est-à-dire recevoir la lettre, lui donner son sens profond qu'elle avait dès le commencement. C'est ça qui est important. Dans l'Ancien Testament, on a parfois l'impression que la lettre est étriquée, et que Dieu est très dur, que Dieu demande à son peuple vraiment des choses, enfin que c'est le Dieu de la terreur, que c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu miséricordieux du Nouveau Testament. Or, cette conception est totalement fausse. Dans la lettre de l'Ancien Testament, il y a déjà tout. Tout est compris sous cette lettre. Le tout, c'est de laisser le Christ interpréter, vous savez qu'on appelle le Seigneur Jésus, la clé ou l'exégète de l'Écriture. C'est lui qui vient donner tout son sens à la lettre. Et il n'y a que lui qui puisse donner son sens à la lettre. Donc, il faut se mettre à l'école de Jésus pour pouvoir recevoir la lettre dans toute sa profondeur. C'est ce que fait le Seigneur Jésus. Lorsque saint Paul nous dit « la lettre tue l'esprit vivifie », vous le savez bien, il ne s'agit pas de critiquer la lettre. La lettre, elle est nécessaire, je vous le disais. L'homme a besoin de loi, et Dieu a voulu qu'il y ait cette lettre. La lettre, c'est ce qui fixe la révélation divine. Les prophètes, les patriarches, les rois ont entendu Dieu, et ils ont voulu mettre par écrit tout cela. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un trésor. La lettre est un trésor. Mais si, d'aventure, on voulait s'arrêter à la lettre de telle ou telle époque, comme le font les légistes juifs, et comme nous avons tendance à le faire, faut bien le dire, nous les tradis, nous avons tendance parfois à fixer à telle ou telle époque le canon absolu en matière de liturgie, en matière d'interprétation des Écritures, en matière de théologie, et on érige une école en magistère. Mais ce que nous invite à faire le Seigneur Jésus, c'est ne pas nous arrêter là, mais laisser lui-même, laisser le Saint-Esprit interpréter, donner tout son sens à cette lettre. Cette lettre n'est pas morte, cette lettre est en perpétuelle évolution. C'est ça qui est très important. Cette parole de Dieu qui est imprimée dans la Bible que nous avons à la maison, cette parole de Dieu est perpétuellement vivante. Encore faut-il laisser le Saint-Esprit nous en faire l'interprétation. Et donner ce dynamisme à la lettre. Voilà, vous voyez que ce sont des principes extrêmement de base, des principes élémentaires que je vous rappelle là. Ce n'est pas un sermon révolutionnaire que j'entends vous faire du tout, je ne vous apprends rien, mais simplement, je voudrais vous inviter à bien considérer ça. Dans la lettre, il y a tout, mais si on détache cette lettre, si l'on s'arrête à la lettre à un moment donné de l'histoire sainte, alors on tombe dans l'erreur. C'est le fixisme. Il faut qu'il y ait une exégèse par le Saint-Esprit perpétuelle de la lettre. C'est valable à l'égard de toutes les dimensions de notre belle religion. J'ai un peu perdu le fil de mon propos, mais c'est pas très grave. Je vous invite, voilà, ce que je voulais vous dire quand même, parce que c'est sincèrement un petit peu décousu de retour de vacances, vous l'aurez bien compris. Ce qui doit nous mettre, voilà, c'est là que je voulais en arriver quand même, ce qui doit nous mettre dans la joie, c'est que nous avons la chance, nous les chrétiens, de savoir cela, que tout est dans la lettre, et que l'interprétation de la lettre, c'est le Seigneur Jésus qui la donne. Nous avons reçu cette interprétation. Vous voyez ce que dit le Seigneur? Il dit à ceux qui l'écoutent, « Heureux êtes-vous, vous qui entendez ce que vous entendez et qui voyez ce que vous voyez. » Parce que les rois et les prophètes auraient bien aimé voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. La révélation chrétienne que nous avons la grâce d'avoir reçue est pour nous un privilège incommensurable. Nous sommes infiniment au-delà de tous les rois de l'Ancienne Alliance, de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, parce que par la bouche du Seigneur Jésus, nous avons la plénitude de la révélation, c'est-à-dire la lettre et la clé d'interprétation de la lettre. Ça, ça doit nous mettre dans la joie, parce que le Seigneur nous le demande, et parce que c'est quelque chose qui est exaltant, nous avons la vérité pleine et entière, par la grâce du Christ et par le Saint-Esprit. Évidemment, le fait d'avoir cette supériorité ne doit en rien nous pousser à un sentiment de supériorité. Nous sommes absolument redevables, noblesse oblige. C'est-à-dire que témoins que nous sommes de toutes ces merveilles, de la lettre et de l'interprétation par le Christ, de toute plénitude de la lettre, nous devons, auprès de nos contemporains, rendre témoignage de cela.
pas de nos pauvres contemporains juifs, de nos pauvres contemporains musulmans, de nos pauvres contemporains athées ou agnostiques, nous avons le devoir de rendre témoignage de cette lettre et de l'esprit qui interprète la lettre. Je crois que le témoignage le plus puissant que nous puissions donner, c'est lorsque nous vivons jusque dans ces ultimes conséquences de la lettre et de l'esprit. Notre loi chrétienne, elle est à la fois très exigeante, parce que vivre au gré de l'esprit, pardon, c'est quelque chose d'autrement plus exigeant que vivre de la lettre. Les Juifs avaient appliqué, vous le savez, et encore aujourd'hui, les observants le font, plus de 600 petits préceptes. Et puis, lorsque ces préceptes sont accomplis, on s'estime quitte et on est prêt pour le ciel. Oui, mais ça, c'est quand même très pratique. Notre religion n'est pas du tout du même acabit. C'est en permanence que le Saint-Esprit nous souffle des choses tout à fait surprenantes qui nous conduisent là où nous n'aurions pas voulu aller dans un premier temps. Ça, c'est le grand large de la vie chrétienne. C'est magnifique, vivre au souffle de l'Esprit. C'est très exigeant et en même temps, c'est très beau. Alors, je voudrais simplement conclure en vous incitant à demander cette docilité au Saint-Esprit. Vous rentrez de vacances, pour nombre d'entre vous êtes détendus, vous êtes reposés, vous êtes disposés à croquer cette nouvelle année à pleines dents, bien faites-le dans cette disponibilité au Saint-Esprit. Allez compulser les saints êtres, vraiment, enfouissez-vous dans la lecture de l'Écriture, de cette lettre, dont il ne faut pas avoir peur, notamment lorsqu'elle a des contradictions apparentes, des choses comme ça, et demandez au Saint-Esprit d'être vraiment fidèle à cette lettre, et d'une fidélité toute digne, d'une fidélité de Fils de Dieu, Père, Fils et du Saint-Esprit.